Les grandes voix d'Europe 1.
10h-11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les grandes voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour. Bonjour.
Deux sujets aujourd'hui, deux sujets seulement car il y a beaucoup à dire. Le nouveau gouvernement Borne, au bout de 3 semaines, il a été annoncé hier à 16h15 sur le perron de l'Elysée. Il y a ceux qui restent, ceux qui changent, ceux qui arrivent et ceux qui partent, sachant qu'il y a encore quelques trous à combler. Elisabeth Borne, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, veut faire de la France la première grande nation à sortir des énergies fossiles, mener une planification écologique territoriale, d'où le duo Montchalin-Pannier-Runacher. Oui, mais que dire de Pap Ndiaye, nouveau ministre à peine nommé qui crée la polémique, ou du maintien d'Éric Dupond-Moretti? Ce gouvernement pourra-t-il résister aux élections législatives dans un mois? Ou n'est-ce qu'un intérim, comme le prédit, surtout le souhaite Jean-Luc Mélenchon? Nous poserons la question. L'autre sujet, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Comment peut-on l'oublier? Tous les jours, des femmes, des enfants, des hommes sont tués. Nous sommes au 86e jour de combat et les bombardements continuent de pleuvoir sur Odessa et sur Severodonetsk. Un petit changement évidemment est un doux euphémisme, qui intervient maintenant avec l'arrivée des armes lourdes. Les canons César, les chars Léopard suffiront-ils à repousser l'armée russe qui continue de progresser? L'Ukraine qui a ouvert aussi cette semaine son premier procès pour crime de guerre envers un soldat russe. Vous avez le programme jusqu'à 11h, le débat des grandes voix, c'est parti. Il aura fallu 5 jours après sa prise de fonction lundi dernier à Elisabeth Borne pour former son gouvernement. La nouvelle équipe est attendue lundi en Conseil des ministres pour sa rentrée. Donc au total, près de 3 semaines après l'investiture d'Emmanuel Macron, certains critiquent. D'autres disent que non, après tout, c'est bien d'avoir pris le temps de la réflexion. Comme je le disais en introduction, il y a ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui changent, ceux qui font leur entrée. Sachant que le nom, sans doute le plus cité depuis hier soir, c'est celui du nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qu'Elisabeth Borne a tout de suite défendu aux 20h de TF1 hier soir. Quel message envoyé avec cette nomination? Est-ce que c'est un barrage à Jean-Luc Mélenchon pour les futures législatives, Charles Villeneuve?
Oui, je crois, en effet. Et c'est en tout cas un véritable virage idéologique. Un tête-à-queue en matière de sécurité routière, on appellerait ça un tête-à-queue inattendu, complètement. Et d'ailleurs, il a reçu les félicitations de Mélenchon, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est aux antipodes de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer défendait le discours républicain face au communautarisme. Le nouveau ministre est aux antipodes. Il considère qu'il y a un racisme dans l'État, non pas que l'État est raciste. C'est assez intéressant parce que ça rejoint un tout petit peu le discours importer des campus universitaires américains, ce qu'on a appelé la culture woke, ou la cancel culture, et lui en était pris. C'est un historien, notamment des minorités. C'est vraiment, comme je le disais, à l'extrême de Blanquer. Alors, est-ce que le président de la République est allé pêcher cette originalité de manière freudienne? Il faut se rappeler que candidat à l'élection présidentielle en 2017, un voyage en Algérie nous l'avait montré, considérant que la colonisation relevait d'un crime contre l'humanité. Rappelez-vous, de toute façon, le débat qu'il avait provoqué sur ce plan-là. On le retrouve là aussi, dans cette nomination. Alors, évidemment, il ne faut pas faire de procès tout de suite, avant même qu'il n'exerce ses fonctions. On le verra à l'œuvre. Mais je pense que l'éducation nationale, les profs, les maîtres d'école ont voté en masse, manifestement, pour l'union de la gauche manière Mélenchon. Et est-ce que c'est un signe par rapport à ça? Je le crois, puisqu'on a vu que sur le plan social aussi, ce nouveau gouvernement a mis beaucoup de ministres plutôt inspirés par la gauche, et le régalien, plutôt des ministres inspirés par la droite.
Catherine Ney.
Oui, moi, je n'ai pas vraiment d'idée sur ce que peut faire Pap Ndiaye. D'ailleurs, vous voyez, j'ai eu du mal à retrouver son nom, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a les diplômes pour être ministre de l'Éducation. Voilà, il est normalien, agrégé d'histoire. Et hier soir, au moment de la passation de pouvoir, il avait adopté un ton très doux en disant « Moi, je suis un enfant de la méritocratie républicaine.
» Ce qui est vrai.
Et oui, ce qui est vrai. Son père était sénégalais, sa mère professeure en France, enfin une française. Donc, Et dans son discours, il n'y avait rien d'agressif ni de revendicatif. Mmh. Bon, mais ce qui était intéressant, c'est de voir...
c'est le premier discours. Hein.
C'est le premier discours. Mais Jean-Michel Blanquer, eh bien, lui, il a fait vraiment... C'était un hymne à la République, un discours très républicain, intransigeant, mais de bonne humeur. Et voilà, la passation, c'est maintenant... C'est vrai, comme dit Charles, il faut le voir à l'heure. Bon.
Oui.
Alors déjà, Emmanuel Macron l'avait distingué, dans quelque sorte, puisqu'il lui avait nommé l'année dernière, en 2021... la direction générale du Palais de la Porte Dorée, qui est le musée de l'histoire de l'immigration. Ouais. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il était symbolisé quelque chose. C'est la grande nouveauté. Et ça veut dire quoi? Oui, il faut que ça se traduise en actes, en discours. Oui.
Parce que pour l'instant, l'opposition, si on résume à Marine Le Pen et à Éric Zemmour, juge, entre guillemets, un peu vite peut-être, le passif de cet homme-là, la nomination de Pape Ndiaye, indigéniste assumé à l'éducation nationale, est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir, dit Marine Le Pen sur Twitter. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France, Pape Ndiaye va s'en charger, dit de son côté Éric Zemmour. Michel Cotta.
Oui, ça c'est pas étonnant.
Non, on n'en attendait pas.
Moi, je trouve que à partir du moment où il a effectivement les diplômes requis, où il existe dans le monde de l'éducation, on sait très bien la position de Emmanuel Macron sur les guerres coloniales, sur les minorités. On sait très bien lorsqu'il est sorti d'Algérie en disant qu'effectivement c'était un crime contre la guerre coloniale, avait été un crime contre l'humanité. Personne ne peut s'étonner au fond qu'après ils prennent quelqu'un qui, d'une certaine façon, représente ce qu'il pense. Moi, la seule chose qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'un président de la République hésite au fond entre deux ministres si différents.
Totalement opposés.
Voilà. Comment est-ce que dans une première période, il prend justement quelqu'un qui prend soin de parler de la République, etc.
Dont la ministre, dénonce l'islamo-gauchisme dans les universités.
Oui, mais ça d'ailleurs, je trouve qu'elle était sortie de son rôle en faisant ça. Enfin bon, mais comment il peut hésiter enfin entre deux profils aussi différents? Je trouve ça.
Mais c'est lui en même temps.
Oui.
C'est une illustration, lui en même temps.
Si on remonte la composition du gouvernement, on l'a vu donc hésiter entre deux premiers ministres. Une première ministre venant de la gauche, une première ministre dont on a dit qui venait de la droite et dont on a dit qu'il était vraiment prêt à la nommer. Et au fond, ça m'étonne toujours. Comment est-ce qu'on dans un gouvernement on peut avoir deux options à ce point différente? Alors il faudra juger.
Ce qu'on a dit au début, c'est qu'il y a quand même la menace de la NUP qui arrive pour les législatives. Il fallait faire un marqueur
au
gouvernement.
Moi, je n'y crois pas, ça. Oui. Hein.
Ah, vous n'y croyez pas?
Non, moi, je ne crois pas que ce soit une manœuvre électorale. Je pense que c'est plus profond que ça, que peut-être ça va poser davantage de problèmes et qu'il faut juger son action à ce qu'il va faire.
Moi, je crois les deux.
Vous croyez les deux?
Oui.
C'est le en même temps la Charles Villeneuve.
Je crois que c'est un signal, c'est une leçon tirée du vote notamment qui a réussi à Mélenchon à travers cette union de la gauche. Et je crois que notamment les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que les 25-35 ans ont voté aussi de la même manière que le personnel de l'éducation nationale en masse pour cette nouvelle union de la gauche. C'est la raison pour laquelle moi je m'inscris en faux contre beaucoup de commentateurs en disant mais non, c'est de toute façon le verbe qui non, pas du tout. C'est une vraie nostalgie justement de l'électorat de gauche qui était à la recherche de cette union de la gauche et qui a été volontairement et de manière presque militante vers cette confédération réussie. Et donc, je crois qu'il y a un signal et je crois que, comme d'ailleurs le dit Michel aussi, nous sommes d'accord, c'est freudien, c'est le rappel de ce qu'il a fait en 2017, candidat à l'élection présidentielle.
Je n'aurais pas dit que c'était freudien, mais enfin, dans sa continuité. Oui.
10h18, première pause dans les grandes voies. On revient juste après pour commenter justement ce nouveau gouvernement. À tout de suite.
Les grandes voies d'Europe 1.
Pierre de Villeneau.
Les grandes voix d'Europe, hein, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Michel Cottard, on continue à parler du gouvernement. Le gouvernement Borne présenté hier après-midi sur le perron de l'Élysée. L'autre nom qui dérange surtout les magistrats, c'est le maintien d'Éric Dupond-Moretti à la justice. On a envie de se dire que c'est une façon pour Emmanuel Macron de dire « ça vous plaît pas ? Bah justement, je vais remettre Éric Dupond-Moretti ».
C'est exactement ça.
Michel Cottard.
Effectivement, les magistrats ont d'abord très mal accueilli, comme vous le savez, la nomination de Dupond-Moretti, parce que cet avocat un peu fort en gueule, qui a gagné 30 procès, était effectivement pour eux une personnalité dite clivante, et c'est sûr.
Et qu'il est bousculé.
Et alors, ils ont donc, le parquet national, comme vous savez, est arrivé à faire mettre Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Alors ça, pardon, je raconte juste l'histoire. Éric Dupond-Moretti avait été écouté dans le cadre de l'investigation sur la taupe de Sarkozy. Donc il avait été écouté comme d'autres avocats et effectivement, il avait porté plainte. Bon, la plainte se retourne contre lui. Là, c'est une façon pour Macron, claire, de dire au magistrat, vous outrepassez vos droits en le portant devant le parquet financier et en le demandant à la Cour de justice de la République, vous outrepassez vos droits, et ben, je garde, moi, Dupond-Moretti. C'est un pied de nez, et un pied de nez, je trouve, assez bienvenu, parce que ce n'est quand même pas les magistrats qui nomment les ministres.
Oui, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer qui s'est institué entre le chef de l'État et les magistrats syndiqués. Le fait qu'ils ont réussi à le faire mettre en examen, le garde des Sceaux et Éric Dupond-Moretti, par la Cour de la justice de la République, ce bras de fer s'est institué, très bien, et le choix de garder le garde des Sceaux pose une question de principe, comme le dit Michel. Les magistrats, soit on leur donne raison, soit on leur donne tort, mais en tout cas, ça n'est pas à eux de nommer les ministres. C'est un peu, ça résume la pensée du président de la République.
Catherine. Vous savez, quand Dupond-Moretti a été nommé, c'était le 6 juillet.
On s'en souvient ici.
On s'en souvient. Oui. Le lendemain, le procureur de la Cour de grâce, Molins, et qui est aussi le procureur auprès de la Cour de justice de la République, lançait une enquête parce que suite aux plaintes des Français contre la gestion du Covid, des ministres, et ce qui, trois mois plus tard, a abouti à une perquisition, vous voyez, à 6 heures du matin, où on arrivait chez des ministres, chez le Premier ministre.
Chez Édouard Philippe.
Édouard Philippe, le ministre de la Santé, une ex-ministre, enfin, à 6 heures du matin, on fouillait dans les placards, pour ne rien trouver. Mais c'était une réponse d'intimidation. Parce que je crois que Molins voulait être garde des Sceaux.
Oui.
Bon, c'est ça. Bon, là, c'est lui, le procureur Molins, qui a signé les réquisitions de renvoi pour jugement de Dupond-Moretti devant la Cour de justice. On va voir si elle suit ses réquisitions, peut-être pas. Bon, mais en même temps, on peut dire que Molins, là, il vient de signer le non-lieu de Woerth. Hein. Vous voyez, Éric Woerth, le drame, ce qu'il a subi avec la justice pendant des années et des années. Vous voyez, donc, je crois que Emmanuel Macron, en nommant le ministre, veut montrer qu'il ne se laisse pas intimider. Et que s'il est légitime que la justice soit indépendante, qu'elle n'en profite pas pour faire de la politique. C'est ça aujourd'hui qui est le problème de fond de la politique. C'est que pour être indépendant, et les juges, ils font de la politique.
C'est pour ça que je disais que dans la constitution de ce gouvernement, il y a beaucoup de signaux politiques. Et ça, c'en est un. Un signal par rapport, si vous voulez, aux investigations parfois intempestives que se permettent un certain nombre de magistrats.
Vous voyez, c'est qu'ils étaient invités, bien sûr, mais à la cérémonie d'investiture, Monsieur Molins,
François Molins,
s'est porté pâle, ainsi que Madame Arens, qui est la première présidente de la Cour de
Cassation. Les deux signaient une tribune. Absolument hostile. Voilà. D'une manière incompréhensible, parce que ça ne se fait pas comme ça.
Et même choquante. Et même choquante.
Et même choquante. Il n'avait même pas pris son rôle. Alors là, c'était juste avant.
Chacun a sa place.
Elle part en retraite dans quelques mois.
Ouais. Bon, et en tout cas, il y a aussi d'autres nominations dans ce gouvernement. Il y a les ascensions. On est d'accord pour dire que pour Gabriel Attal, pour Sébastien Lecornu qui prend la défense, pour Olivia Grégoire qui prend le porte-parole, ce sont des ascensions. Il y a des chutes libres. Olivier Véran qui reprend un ministère qui est quand même autrement moins prestigieux que le ministère de la Santé. Marlène Schiappa qui n'est pas retenue. Et puis, que penser aussi de l'arrivée de Catherine Colonna ?
Ah ben, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, est là pour d'abord panser aussi la plaie ouverte du corps diplomatique condamné à disparaître par le président de la République. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs.
Ben oui, mais elle en fait partie.
C'est, c'est la technique ancienne de puiser dans le sérail pour éteindre les feux de la révolte, qui couve d'ailleurs au Quai d'Orsay, siège du ministère des Affaires étrangères. D'autant que Catherine Colonna n'est pas n'importe qui. Elle a été 10 ans la porte-parole de Jacques Chirac, elle a été ministre des Affaires européennes, elle connaît très bien toutes les procédures, notamment de convocation par les commissions d'enquête ou par les conseils, si vous voulez, notamment dans les assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, où on interroge profondément les ministres en charge. Elle connaît parfaitement cette procédure-là. Je trouve que c'est un très bon choix. Et aller dans le sérail, ce qui est pas nouveau. Il ne faut pas oublier que souvent, les présidents de la République l'ont fait.
Le Couve de Murville.
Couve de Murville, Sauvagnargues, plus tard avec Giscard, Claude Cheysson, François Mitterrand, ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est Catherine Colonna aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Et c'est souvent une bonne chose.
Je voudrais revenir sur le cas d'Olivier Véran. Alors, je me suis demandé, effectivement, pourquoi cette chute ? Et je me demande si, finalement, ça n'est pas pour tourner la page du Covid.
Bien sûr.
Quelque part, il apparaît comme un oiseau, pas de mauvaise augure, mais enfin, un oiseau qui a beaucoup parlé du Covid. Bon, mais alors, le remettre au Parlement... Moi, ça me paraît vraiment rude pour lui, parce que je vous rappelle qu'il avait eu des mots terribles pour le Parlement à un moment donné, où il leur avait dit « vous parlez de choses que vous ne connaissez pas au moment où les médecins
sont parce qu'il est médecin lui-même, il faut le rappeler. Voilà. Il est médecin lui-même, il disait « regardez, moi j'ai vu hier un homme de 35 ans intubé de partout,
moi,
vous savez pas ce que c'est que le Covid, c'était au début. »
Je trouve un peu dommage de le mettre dans ce rôle.
Je trouve, Michel, que c'est une très bonne thérapeutique.
De quoi donc ?
De le mettre à l'Assemblée nationale.
C'est une façon.
Non, mais hier, au moment de la passation de pouvoir avec Marc Fesneau, qui a fait ça pendant 5 ans, d'ailleurs très bien, en s'entendant, en jouant très bien son rôle, qui est assez obscur pour les gens de voilà dans la rue. On ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais c'est un rôle très important. Olivier Véran semblait alors enthousiaste par cette nouvelle tâche. Oui. Alors évidemment, comme on dit, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.
Exactement.
Mais donc, il reste ministre, il avait l'air content, et c'est peut-être un sas avant d'avoir
aussi. On avait marre, deux ans de pandémie.
Oui, 10h29, on marque une nouvelle pause et les grandes voix reviennent dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et on continue de passer en revue ce gouvernement avec Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Catherine, vous vouliez insister sur les sortants, j'allais dire redoublants, non c'est ça, qui
restent. C'est-à-dire que là, on a pris tellement de temps qu'on s'est dit, mais il va faire un grand bing-bang, il va changer, si on prend du temps, et c'est très difficile. Bon, eh bien, il a pris du temps, peut-être pour trouver que c'était très difficile de trouver des remplaçants. Et que ceux qui avaient bien travaillé, eh bien, il fallait... plutôt continuer avec eux.
Et le puis, maire, Darmanin, pas seulement.
Gabriel Attal. Bon, dans tous les cas, les numéros 2 et numéro 3 du gouvernement seront Bruno Le Maire, qui accroît d'ailleurs ses compétences, et Gérald Darmanin. Donc, ça veut dire aussi qu'un président qui est réélu, mais quand il est habitué à des têtes, c'est très difficile d'en changer aussi. Et que la sécurité pour lui, c'est d'avoir des gens qui connaissent déjà le métier, qui ne mettent pas 6 mois à connaître leur administration, et à se mettre tout de suite au travail aussi. C'est un gage plutôt de sécurité.
Ils sont devenus des pros après avoir été des amateurs.
Eh bien oui, c'est ça.
Bon, ils sont devenus des pros. Darmanin, Dupond-Moretti, Montchalin, Lecornu, Dussopt, Marc Fesneau, Pannier-Runacher, Clément Beaune, Gabriel Attal, Olivier Grégoire, et je dois en oublier.
Ça a été les meilleurs élèves, finalement, si j'ose dire.
Service rendu.
Charles Villeneuve.
Il y en a un qui est placé sur une ligne de crête, c'est manifestement Gabriel Attal.
Oui.
Parce qu'il passe du porte-parole à
ministre du budget. Ministre
le budget, c'est un marqueur. Hein.
Des comptes publics, c'est, bien sûr. Oui. C'est en réalité... c'est comme quand vous avez un homme qui a pour ambition d'être chef d'état-major des armées, il faut qu'il passe par les plans, c'est-à-dire sous chef d'état-major. Et bien là, quand vous passez par le budget... Vous êtes sur la ligne de crête.
Voilà. D'ailleurs, l'exemple, c'est Nicolas Sarkozy. Quand il a été ministre d'Edouard Balladur, d'ailleurs, il l'a exigé. Il était à la fois ministre du budget et porte-parole du gouvernement.
En même temps.
En même temps. Voilà.
Et Jacques Chirac a été aussi à commencer.
A commencé par le budget.
Par le budget.
Sur le côté régalien, Michel.
Alors, effectivement, si on a l'analyse la plus évidente, c'est que tout ce qui est régalien. Est quand même tenu par des ministres venant de la droite. Hein, c'est le cas.
Mais ils venaient de la droite, ils y sont restés.
C'est
quoi.
Le cas de l'intérieur, venant des Républicains.
C'est l'autorité, oui.
Voilà. Tout ce qui est les fonctions régaliennes, ça, et tout ce qui est fonction plutôt sociale, est occupé par des représentants de la gauche. Alors, des représentants de la gauche qui se sont mis en dehors eux-mêmes de la gauche telle qu'elle fonctionnait avant, de la gauche socialiste traditionnelle, mais qui représentent quand même une sorte de gauche qui, en même temps, représente la social-démocratie, alors que d'autres peuvent représenter le libéralisme social.
Oui, Olivier Dussopt qui va mener la réforme des retraites,
ministre
par exemple.
Du Travail.
On lui souhaite bien du plaisir.
Avec Brigitte Bourguignon, puisque l'hôpital est quasi sinistré, on l'a vu à travers la pandémie du Covid, et mettre justement, constituer ce couple très complémentaire, il faut le dire, entre Olivier Dussopt et Brigitte Bourguignon, c'est une bonne idée.
Sur le fond également, l'écologie au centre des préoccupations, avec un duo Montchalin-Pannier-Runacher, chacune dans son domaine. Et puis,
La Première ministre.
Et la Première ministre qui chapeaute tout. Et puis, qui pour le coup a été ministre aussi de la transition écologique, donc elle sait de quoi elle parle. Et puis, un premier projet de loi porté sur le pouvoir d'achat. Ça, c'était les déclarations d'Elisabeth Borne hier soir sur TF1. Avec un chèque alimentation, des mesures de bouclier tarifaire, la prolongation de la réduction des prix du carburant, la revalorisation des retraites, le triplement de la prime Macron, et puis pour ceux qui roulent en voiture, un leasing à moins de 100 euros par mois pour l'accession à une voiture électrique.
Elle y a intérêt, parce qu'elle est parachutée quand même dans un coin, de l'ouest de Normand, où les électeurs sont assez méfiants, notamment de ceux qui viennent de Paris, qui ont des titres, polytechniciennes, etc. C'est pas dans le bocage, ça peut patauger sur ce plan-là, largement. Et elle va donc à Vire, notamment.
Oui.
Et quand vous regardez les élections à Vire, notamment législatives, c'est toujours ric-rac.
Oui, mais celui auquel elle succède était élu très largement.
Oui, très largement, parce qu'il était ancré depuis longtemps, parce qu'il avait fait le travail, parce qu'il s'y était investi. Là, c'est la Première ministre.
Et c'est lui qui l'a choisi, lui a demandé de venir.
Oui, là, c'est la Première ministre.
Il y a le parrainage du sortant.
Là, si je peux finir.
C'est un débat,
j'instaure. Voilà, ce n'est pas pour te contester.
Tout à fait.
Scène de ménage, surtout.
Non, pas du tout.
D'abord, ça nous arrive. Nous
constituons un ménage très complémentaire, pas du tout.
Michel Cotta.
Sauvez-moi. Évidemment, il est évident que toute la propagande de Jean-Luc Mélenchon, de temps en temps, prête à faire rire, parce qu'on n'y croit pas trop quand il dit « elle en a pour un mois, de toute façon, après je changerai ». Il reste que Jean-Luc Mélenchon sera la force d'opposition numéro un dans tout ce nouveau gouvernement et dans ce nouveau quinquennat. Il ne sera pas au Parlement, donc on est sûr qu'il ne sera pas président de la Commission des Finances, puisque je vous rappelle que la Commission des Finances appartient depuis que Sarkozy
à l'opposition.
À l'opposition, ce qui pose un problème, parce que quand on aura... si on a Ruffin, vous voyez, comme président de la Commission des Finances. Voilà, c'est ça. On risque. Mais il y a effectivement des clins d'œil dans ce gouvernement vers Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que ça n'est pas suffisant. Mais je pense que toute cette campagne est quand même part sur un faux truc qui est Voilà, elle en a un mois, elle en a pour un mois, Elisabeth Borne, et après on la remplacera.
Il y a des regrets. On parlait de Julien de Normandie, notamment ce matin, Catherine Ney.
Ben, Julien de Normandie, moi, on s'attendait à ce qu'il ait un grand avenir parce qu'il a été un très grand ministre, enfin un très bon, ministre
de l'agriculture.
De l'agriculture.
Oui. Bon,
mais on en parlait même comme un premier ministre.
On en parlait même
possible.
Comme un premier ministre. Bon, ben il va prendre le parti, mais je crois que c'est un jeune père de 4 enfants qui veut. Voilà, mais je crois qu'il a demandé à.
Qu'est-ce qu'il y a
Moi, je me méfie toujours des hommes politiques qui, après 4 enfants, disent il faut maintenant que je me consacre à ma famille. Voilà.
C'est comme les animateurs télé qui disent.
Oui, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il se consacrera à autre chose aussi. À sa famille peut-être, mais aussi à autre chose. Au parti, par exemple.
Comment
au parti, par exemple, qui est en déshérence.
Le parti.
Oui,
on lui demande de réorganiser le parti.
Et comme Stanislas Guérini entre gouvernement, il fallait bien un remplaçant.
Oui, oui, oui.
10h39, je pense qu'on a fait le tour du gouvernement. On va parler de la guerre en Ukraine dans un instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec à mes côtés Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. Et quelle interrogation doit-on avoir au bout de 86 jours de guerre? Est-on encore susceptible de se poser cette question? La paix est-elle possible? Dans l'état actuel des choses, personne n'a gagné. Ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Russes qui n'ont pas achevé ce qu'ils voulaient terminer en l'espace d'une blitzkrieg, ni les Ukrainiens qui enterrent leurs morts chaque jour et qui ont tout un pays à reconstruire et qui, dernier symbole en date, ont marqué la reddition à la Syrie d'Azovstal. Charles Villeneuve, si on reprend l'image d'un graphique avec des courbes comme en économie, on a l'impression d'être sur un plateau, une sorte de stagnation. Mais vous nous dites ce matin que ça va changer, notamment avec l'arrivée de nouveaux armements.
Non, je dis que le temps est à la guerre et même
plus
dans une intensification de l'escalade de la guerre. Et cette phase nouvelle correspond en effet à une semaine qui va être lourde de responsabilités, notamment par rapport à ceux qui fournissent les armes, car c'est les convois qui vont transiter par les pays de l'Est appartenant à l'OTAN, comme notamment la Pologne en première ligne, mais aussi la Roumanie, mais aussi les pays baltes aussi, arrivent des convois d'armes lourdes. Ce sont les obusiers américains 777. Vous avez vu que le Congrès américain a voté une aide pour l'Ukraine de 40 milliards, dont 20 milliards pour la fourniture d'armement. Arrivent aussi cette semaine les chars Léopard allemands et aussi les canons César français, accompagnés, si vous voulez, de toute une flopée d'armes anti-chars, les javelines américains, les Milan français, et puis des équipements infrarouges pour la guerre nocturne, la guerre de nuit, c'est très important, parce que l'armée ukrainienne, organisée notamment par petits groupes de snipers, fait beaucoup de mal sur le plan des résultats, je dirais, des bilans qui sont assez lourds de part et d'autre.
Y compris sur la flotte russe, d'ailleurs.
Absolument. Et puis, vous avez la position du G7, quand même, des ministres des Affaires étrangères, le 14 mai dernier. Si vous lisez le communiqué final, vous apercevez que le camp occidental a une marche à suivre, militaire et politique, appuyer militairement et politiquement à fond l'Ukraine, et notamment très hostile à la Russie, puisqu'il ne jamais reconnaître, le communiqué dit ceci, ne jamais reconnaître les frontières que la Russie essaie de modifier au moyen d'une agression militaire, y compris en Crimée, c'est-à-dire l'annexion de 2014, doit être mise en question.
Oui.
Donc, c'est ce qui nous fait dire, c'est ce qui me fait dire qu'on est plutôt dans une intensification de l'escalade. Et puis, il y a aussi un autre phénomène dont il faut tenir compte, et je finis là-dessus, c'est qu'un axe qui s'est renforcé aujourd'hui, qui était une ligne de partage, qui est en train de se creuser entre trois pays de l'Europe, la France, l'Allemagne et l'Italie, et qui sont critiqués, traités quasiment de munichois par tous les pays qui ont subi la tutelle soviétique, comme les pays de l'Est, comme la Pologne, qui est leader dans cet axe-là, et aussi les pays baltes, et aussi les nouveaux candidats à l'entrée dans l'OTAN, comme la Finlande et la Suède. Donc, vous avez indéniablement, alors que les Russes, maintenant, ont fini quasiment le siège de Mariupol, qui s'attaquent à Odessa. Sincèrement, je n'y croyais pas. Est-ce que les Russes vont faire ce qu'ils ont fait de Mariupol
Personne n'y croyait.
À Odessa, C'est vrai qu'ils veulent la maîtrise totale de la façade maritime de l'Ukraine, mais ce qui engage, et ça ne facilite pas les choses, c'est qu'est en train d'enfler, si vous voulez, une crise économique, et notamment de matières premières, considérable, avec une inflation qui l'accompagne, tout ça étant dû, notamment, à la guerre de l'Ukraine. Pas seulement.
Et ça explique aussi...
On voit bien là, parce que là, les Russes ont pris une dérouillée formidable à Kharkiv. Quand on voit les images, tout ça, de tous ces chars qui ont été détruits, de toutes ces morts russes. Donc, quelle riposte peuvent avoir les Russes? Ils ne veulent plus venir sur le terrain. Donc, leur riposte, c'est d'envoyer des bombes et de tout casser, comme à Odessa.
Mais par l'aérien.
Par l'aérien. Mais le plus, d'ailleurs, c'est difficile de comprendre Poutine parce que. Le 9 mai, lorsqu'il a fait la grande messe patriotique en Russie pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie, il y avait un monument, il avait déposé une fleur sur la ville d'Odessa qui avait été martyre. Et là, donc, on s'est dit, il va préserver la ville. Et le lendemain, alors là, c'est une pluie de bombes qui est tombée sur la ville où ils sont en train de faire des destructions énormes. Donc, la politique des Russes, c'est si on ne gagne pas tout, eh bien, au moins, on aura tout détruit. C'est ça. Et que voilà.
Et au moment où l'on parle, je reçois un urgent de l'AFP qui nous dit que c'est une dépêche de Moscou. La Russie assure avoir détruit un important envoi d'armes occidentales à l'Ukraine. Ça tombe à l'instant.
C'est ce que je voulais dire sur les envois d'armes, puisqu'elles sont balisées quand même.
Michel Cotin.
Je ne sais pas jusqu'à quand. Je me demandais jusqu'à quand les Russes laissaient des convois d'armes
arriver.
Oui. Bon, ben, on voit sans doute une première réponse et ça ne va pas être... ça va pas être si facile que ça. Alors, moi, je vois effectivement la coupure de l'Europe. Au fond, on a commencé ce conflit, on s'est dit, l'Europe n'a jamais été aussi unie, et d'ailleurs, l'OTAN s'est réveillée. Et puis, en réalité, on s'aperçoit qu'au bout de, quand même, 2 mois de conflit, l'Europe n'est plus unie. L'Europe n'est plus unie.
Elle n'est pas désunie encore.
Elle n'est pas désunie, mais... et que d'ailleurs... c'est par Erdogan que passent beaucoup de choses,
oui,
et pas par
le président turc.
Hein, ça, on voit bien ça, et on voit aussi que l'OTAN est quand même pas est une valeur sûre parce qu'elle est recommandée, elle est soulignée et souhaitée par quelques pays,
tous les pays de l'Est.
Mais il reste que c'est un objet de conflit. Ça reste un objet de conflit.
Oui.
Est-ce que Poutine peut vraiment accepter que les forces de l'OTAN soient voisines de sa frontière? C'est tout le problème.
Ce matin, vous avez une réponse de Gazprom, qui est le Total russe, si vous préférez, qui annonce ce matin qu'il avait suspendu toutes ses livraisons de gaz à la Finlande suite au refus d'Helsinki de payer en rouble. Voilà.
Non, mais tout à l'heure, Pierre, vous posiez la question en disant où est la paix possible, c'est-à-dire la négociation. À l'heure actuelle, au moment où nous parlons, vous venez d'annoncer qu'il y a un convoi d'armes.
J'en sais pas plus pour l'instant, mais
de livraison d'armes à l'Ukraine qui a été bombardée.
Paraît assez logique.
Le problème est de savoir où il a été bombardé, parce que si c'est dans un pays de l'OTAN ou en bordure d'un pays de l'OTAN, vous connaissez l'article 5 de la convention de l'OTAN, c'est que un pour tous, tous pour un.
C'est ça.
Bon, c'est-à-dire que automatiquement, l'OTAN même entre dans les participants à la bataille. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne peut pas être optimiste, c'est que Poutine considère qu'il doit gagner coûte que coûte. D'autant qu'il n'est pas isolé, il ne faut pas l'oublier internationalement. Il y a beaucoup de pays émergents qui, de toute façon, n'ont pas pris position et qui sont conduits, qui sont dans la foulée, dans le sillage, non seulement de la Chine, mais aussi de l'Inde. Bon, la Chine est un pays, de toute façon, qui a l'arme nucléaire aussi, bon, et qui est plutôt dans le sillage de la Russie. Tout ça avec pour adversaire principal les États-Unis. Or, évidemment, la poutre de toute cette alimentation de la guerre, c'est aussi les États-Unis.
Une nouvelle pause dans le débat des grandes voix. On revient dans un instant pour parler de cette guerre en Ukraine. Effectivement, information importante ce matin, la Russie assure avoir détruit un important envoi d'armes occidentales à l'Ukraine. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Catherine Ney qui voulaient justement reparler de la guerre en Ukraine.
Oui, à travers... C'est ce procès que l'Ukraine fait au jeune soldat, le sergent Vadim Chichimarine. Mmh. Il a 21 ans et il a tué un civil à vélo non armé parce qu'il a répondu à des ordres. Et là, je trouve que ce procès, là où il dit qu'il s'est engagé parce qu'il fallait, c'était pour nourrir sa mère, c'est un pauvre petit garçon qui a été manipulé, qui ne savait pas. Et je trouve que c'est à la fois tragique et que c'est un procès, vous comprenez, qui en a ? C'est pas le procès de Nuremberg.
C'est ça.
Ça correspond à rien. Mmh. Il y était pour rien. C'est la guerre, c'est comme ça. Il l'a... Et j'ai trouvé que c'était particulièrement tragique et déplacé. Et on avait évidemment pitié pour la victime. Il y en a tellement d'autres. Mais pitié pour lui aussi, parce que c'est un sort qui le dépasse. Et c'est comme ça pour tout, d'ailleurs.
Un procès pour l'exemple.
L'exemple. Mais voilà, mais les soldats russes qui sont morts de l'autre côté, ils sont venus à l'insu de leur plein gré. Hein.
Non, et puis autant, on peut Michel comprendre. Cotin. Un tribunal international qui, après une guerre, juge avec...
Une organisation.
Avec des... Autant ce procès, bon, effectivement, me gêne parce que c'est un procès de droit normal, de droit coutumier, sur un problème qui n'est pas, qui est complètement différent.
Et
qui est
un enfant, guerre. Au fond. Bon, un enfant.
C'est vrai que...
Moi, je dirais que c'est vrai que Michel et Catherine ont raison de dire que c'est un procès expédié, choquant. Mais il a une signification, ce procès.
Le verdict est attendu lundi. Hein.
Les Ukrainiens l'ont exhibé, ce sergent de 21 ans, pour dissuader, en réalité, la soldatesque russe de se comporter en barbare. Ouais. Mmh. Parce que ça peut se justifier.
Mais il faut qu'il voit, regarde la télévision ukrainienne. Hein.
Mais après lui, il faudra passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire aller chercher les chefs et les responsables et pas les lampistes comme ce sergent. Et les traduire devant une juridiction internationale. Mais là, il faudra qu'une majorité de pays internationaux acceptent d'y siéger. Et constituer une juridiction internationale avec un certain nombre de pays, de toute façon, dont on reconnaît le droit, justement, d'y siéger, eh bien, croyez-moi, ça va être une sacrée affaire.
Alors voilà, on termine là-dessus. Je voulais juste vous dire que cette frappe russe sur cette livraison d'armes s'est produite en Ukraine, dans le nord-ouest de l'Ukraine, dans la région de Zhytomyr, près de la gare de Malines. Ce sont des équipements militaires fournis par les États-Unis et par les pays européens. Donc on n'est pas dans la juridiction, entre guillemets, de l'OTAN. Si ça avait été effectivement en Pologne ou dans un pays balte, ça aurait évidemment été...
Qui exigerait une mobilisation générale des pays de l'OTAN.
Au titre de l'article 5. Merci beaucoup. Les grandes voix, je voulais juste avant de rejoindre Laurent Mériotte, faire une petite transition entre la politique et la cuisine, puisque demain, dimanche à 20h30, Guillaume Gomez sera l'invité d'Antoine Cohen-Potin dans Un dimanche à la campagne sur Seasons, la chaîne thématique du groupe Canal. Guillaume Gomez, bien sûr, l'ancien chef cuisinier des présidents de la République. Laurent Mariotte arrive. Très bonne journée sur Europe 1.